Alors posons pour commencer que le paysage suppose toujours un paysageur et un paysager. Il est leur entre-deux et leur relation est à double sens. Le paysageur articule et façonne le paysage, mais il est lui-même articulé et façonné par lui. Alors, est-ce que cette définition est ou non exagérément extensive? Il y a de nos jours une véritable levée de boucliers qui s'est produite contre le paysage image, contre le paysage lié à sa marchandisation, contre un paysage où triomphe en quelque sorte uniquement la médiation sur le côté concret, sur la découverte d'un paysage originaire qui serait primordial. Essayons donc d'en revenir aux raisons qui ont conduit à distinguer le paysage de la nature, et je vais le faire, nous avons ici un collègue romain que je ne vois plus, il est là, Luigi, qui me rappelait qu'effectivement dans ce livre que vous pouvez trouver ici sur le paysage état des lieux, on faisait état d'une culture qu'on a peut-être un peu oubliée de nos jours. Je me rattacherai à bien des égards à ce travail qui est déjà ancien, mais je voudrais le développer un peu différemment. Alors, voici, je crois, trois difficultés qu'il faut garder en tête, et sans penser qu'elles ont aussi bien trouvé leur solution que certains d'entre nous pouvaient le croire en 99. Première question, d'où vient que certaines civilisations aient été dépourvues de paysages et qu'il n'y ait guère de paysages nommés et reconnus comme tels dans l'Antiquité et le Moyen-Âge en Occident? D'où vient aussi que les enfants mettent si longtemps à percevoir un paysage? Ils perçoivent des objets, mais le paysage, c'est pas un acquis. Il semble bien qu'il n'y ait pas d'évidence supratemporelle du paysage, mais que celui-ci soit toujours à conquérir, comme le parallélisme phylogénétique, parallélisme entre le développement des peuples et le développement des enfants, peut nous le suggérer. Première question, donc. Deuxième question, comment se fait-il qu'on ne puisse pas marcher dans un paysage hollandais et français, ou même anglais, je crois, parce que landscape est à penser du côté de scenery et de prospect, mais qu'on puisse marcher dans une Landschaft en Allemagne? Est-ce que l'aptique, le touchable, doit être éliminé? La réponse n'est vraiment pas simple, puisqu'on se croit parfois en droit de parler de paysage naturel, afin de retrouver un socle originaire. Troisième question, pourquoi privilégie-t-on à ce point la vision dans l'appréhension du paysage? La représentation, hein, pour parler comme Marie-Madeleine Martinet, pourquoi est-ce qu'elle est à ce point privilégiée? Qu'est-ce que voir un paysage? Est-ce le percevoir ou le sentir? Est-ce l'imager ou l'imaginer? Le problème de la constitution du paysage est à examiner du côté du sujet comme du côté de la chose, mais le sujet lui-même se dédouble et il faut articuler au moins l'intentionnalité subjective individuelle et d'autre part l'analyse culturelle. Gardons donc en tête ces trois questions, parce qu'elles attestent un triple rapport du paysage, d'une part au symbolique, tel qu'il se déploie culturellement, ensuite aux vicissitudes d'un réel qui s'impose et qui fait retour, mais enfin à l'imaginaire et au sens non seulement physiques et extérieurs, mais spirituels et intérieurs. Si les théoriciens du paysage semblent tous admettre le caractère éminemment relationnel du paysage, pris comme milieu, médiance, entre deux, ils insistent sur certains aspects plutôt que sur d'autres, si bien qu'on a parfois l'impression de voir engloutis des pans entiers du paysage. Augustin Berque ou Claude Reichler ont fort bien mis en évidence les différentes dimensions ou échelles du paysage, culturelle, biophysique et individuellement subjective. C'est ce que j'appellerais, pour plus de facilité, le symbolique, le réel et l'imaginaire. Convaincu qu'il ne faut pas seulement accoupler les mots et les choses, res et verba, comme le veut toute la tradition antique, mais qu'il faut penser de façon ternaire. Il faut tenir ensemble les mots et les choses, mais aussi les images, même si on donne la priorité tantôt aux uns et tantôt aux autres. Alors je mets les mots, le symbolique, en premier, parce que les choses humaines, pour parler comme vico, les cose umane, n'existent que pour un être parlant, pour un parl'être, celui qui parle être, qui prête consistance à l'être, hein, comme le dit Lacan. Les mots, les choses et les images constituent des anneaux solidaires les uns des autres, à la manière de ces fleurs de borromée dont la topologie nous est aujourd'hui bien connue. Si on détache un anneau, les deux autres se dénouent aussi. Les fictions de l'écrivain, les œuvres de la nature et des jardiniers s'entrelacent avec des images de toutes sortes, qu'on peut énumérer, images spéculaires, caméra oscura, verre de Claude Glasses, peintures de différents types, panorama, photographie, cinéma, vidéo, mais sans oublier non plus les types d'images produits par des moyens de locomotion différents, le train, l'avion, etc. C'est cet entre-là qui constitue l'entité relationnelle que nous appelons paysage. Mais où est la difficulté principale dès qu'on a dit cela? Eh bien, ça tient au fait que le paysage est à la fois le principe de lui-même et son moyen. Il est à la fois le principe de lui-même et l'ensemble des moyens spécifiques qu'il utilise pour apparaître, ses différents véhicules privilégiés. Alors, là, on rencontre une difficulté méthodologique que j'ai rencontrée beaucoup dans mes recherches sur le sublime. Et de fait, le sublime surgit à partir de ce qui est déjà sublime. Il a pour caractéristique de s'employer lui-même. C'est extrêmement net chez Longin, au 1er siècle après Jésus-Christ, quand il distingue cinq sources du sublime qui sont déjà sublimes, n'est-ce pas ? La première source du sublime, ce n'est pas simplement la conception, la pensée, mais c'est la force de pensée qui atteint déjà au but. Sa deuxième, ce n'est pas seulement le pathos, mais un pathos qui est véhément et digne d'enthousiasmer. Et ensuite, quand on aborde les sources techniques du sublime, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les figures, schémata, qui sont sublime, mais précisément les figures qui ont un tour heureux. Ce ne sont pas la phrasis, l'énonciation, la formulation, l'expression, mais c'est l'expression déjà noble. Et enfin, ce n'est pas la synthesis, la synthèse, l'orchestration, mais celle qui possède déjà dignité et élévation. Donc, on a affaire à une chose très bizarre, c'est que le sublime est en même temps son propre moyen, un moyen qui est déjà sublime, et nous avons le sentiment de nous mouvoir dans un cercle. Et bien de la même manière, le paysage se constitue à travers toutes sortes de prothèses qui sont des paysages, à travers toutes sortes d'appareils ou de dispositifs qui forment notre sensibilité paysagère et sans lesquels elle ne serait pas ce qu'elle est devenue. nous ne pouvons pas en faire abstraction. Il nous faut donc concevoir de perpétuels allers-retours entre un usage principiel du paysage et des usages différenciés, resserrés, correspondant à des modes d'actualisation ici et maintenant. Disons donc que nous avons affaire à trois grands types de paysages qui donnent chacun accès au paysage comme tel, P, qui peut être un paysage complètement mythique, originaire, que nous postulons. Donc mettons tout à fait en amont, P. Et ensuite, mettons des paysages qui donnent accès à P et qui sont le paysage littéraire, formé d'abord de mots, le paysage artistique, formé d'abord d'images, mais également le paysage naturel, composé d'éléments naturels. Donc vous avez PL, PA et PN, qui sont des moyens pour P de s'actualiser, de se faire connaître. P, nous ne savons pas grand-chose. Alors, PA et PL, les paysages artistiques et littéraires, semblent d'abord moins originaires, plus pauvres, plus fictifs qu'un possible paysage naturel, issu d'une natura naturans, d'une nature naturant, à l'inventivité prodigieuse. Pourtant, ce qui paraissait le moins originaire, le plus pauvre et le plus fictif, peut aussi devenir le plus fondamental, le plus riche, le plus réel, et finalement donner son étoffe au paysage prétendu naturel. Le paysage d'images et de mots, PA et PL, quintessencie l'expérience paysagère de P ou de PN et la relance. Ils deviennent sa matrice et sa condition de possibilité. Mieux même, et c'est ça la difficulté, il faut penser que PA et PL engendrent le paysage qui les engendre. Hein ? Pour bien comprendre cet engendrement du paysage par lui-même, il faut d'abord nous attacher aux réductions qu'elle suppose. Pour ce faire, je vais m'efforcer de développer une pensée en amont et non en aval. Une pensée qui remonte vers l'origine, au lieu de continuer à descendre vers des objets. C'est beaucoup plus casse-gueule, il faut vous dire. Bon. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'il s'agira de comprendre comment ces réductions rendent possible une véritable mise en résonance et la constitution de chambres d'écho. Pour aujourd'hui, j'essaierai surtout de montrer le travail du négatif qu'en est la condition, en prenant très au sérieux la violence nécessaire à la constitution des machines paysagères qui nous entraînent plus loin et ailleurs dans la reconnaissance, mais aussi dans l'élaboration du paysage. Toute réduction a pour corollaire l'élection de signifiants privilégiés qui favorisent une relation d'autant plus instance qu'elle est mieux spécifiée. La sélection est forcément ségrégation et comporte donc une certaine forme de violence. Je suis frappée d'ailleurs du nombre de livres qui paraissent avec violence dans le titre, par exemple la violence du voir, qui est le titre d'un livre de Gérard Bonnet, ou la violence de l'interprétation chez Pierre Aulagnier. C'est intéressant qu'on essaye de comprendre que la violence n'est pas forcément le mal absolu, qu'elle peut avoir un sens, une utilité. Je voudrais d'abord parler de la réduction esthétique en général, car elle est la condition sine qua non du paysage, en tant que le paysage émerge à partir de la nature, ou plutôt à partir d'une limitation, sur ce qu'on voit bien chez Simmel, d'une limitation bien concertée de notre rapport à elle. Le rapport esthétique suppose toujours un retrait dont il nous faudra comprendre les différents axes. Là, je crois bien me situer dans votre position, Laurent, c'est-à-dire l'esthétique et le mépris de l'esthétique, et peut-être l'esthétique, si un mépris de l'esthétique, il faut le prendre très au sérieux, parce que effectivement, c'est le moment abstrait. Et qu'on ne comprend pas que ce moment abstrait de remonter en aval permet de mieux de reconstituer les objets en aval, justement, que ce moment de retrait en amont permet de mieux constituer les objets en aval, eh bien, on est complètement perdu. J'en viendrai ensuite, non pas à une réduction eidétique, c'est-à-dire une réduction à l'eidos, à l'essence, qui supposerait la possibilité d'atteindre l'essence même du paysage, mais à la réduction optique ou visuelle qui s'effectue spontanément dans le paysage image d'aujourd'hui. On quittera à chaque fois le paysage supposé naturel, PN, pour un paysage littéraire et artistique qui permettra en fin de compte de saisir le paysage naturel par la remontée à un paysage général P. Je voudrais étudier trois réductions qui attestent l'élasticité profonde de la pensée. C'est toujours sidérant, chaque fois qu'on étudie un concept, on peut l'étirer, ou au contraire, on peut lui donner un usage spécifique, mais on s'aperçoit qu'on est presque toujours rattrapé. Si on spécifie, on est rattrapé par les autres usages, et si on se noie dans la diversité des usages, on n'arrive plus à avancer. Donc je voudrais donc étudier ces réductions qui atteste l'élasticité de la pensée et nous oblige à nous interroger sur ce qu'est non seulement voir, mais imager et imaginer. Ça, c'est tout un travail récent que j'ai fait. Je tiens beaucoup à distinguer ces deux termes, non seulement dans l'art, mais dans la nature. Hein, la nature image, elle aussi, elle produit des images. Quand elle reflète une montagne dans un lac, eh bien, elle produit une image de la montagne. Et il ne faut pas confondre cette activité d'imager de la nature avec son activité d'imagination, d'inventer de nouvelles espèces. Je laisserai de côté pour aujourd'hui la question si importante des paysages sonores, tactiles, olfactifs ou gustatifs, afin de me concentrer sur le sujet si difficile de la vision singulière et globale, extérieure et intérieure, imageante et imaginative. Alors, réduction de la polysensorialité à une monosensorialité. De la vision extérieure à la vision panoramique. De la vision extérieure à la vision intérieure. Et enfin, de la vision à la formation d'images reflets et d'images imaginifiques. Bon, alors on a bien notre plan. On commence par la réduction esthétique, on continue par ces types de réductions, et ensuite on essaiera de faire une petite conclusion. La réduction esthétique, c'est chez Kant qu'on la trouve exprimée dans toute sa pureté. L'audace incroyable de Kant, à une époque où l'histoire de l'art était en train de se fonder, où on connaissait de mieux en plus mieux les œuvres, c'est d'avoir établi un divorce entre le jugement esthétique et le jugement de connaissance. Le jugement de goût n'est pas un jugement de connaissance. Par conséquent, il n'est pas logique, mais esthétique. Est esthétique le rapport qu'entretient la représentation non pas à l'objet, mais au sentiment de lust et d'unlust qui se rapporte à cette représentation. Il est difficile de traduire lust, hein, on traduit en général par plaisir, parce que son champ sémantique déborde celui du plaisir et va jusqu'au désir de plaisir que l'anglais lust, qui dérive lui aussi de lutan, de la racine indo-germanique, a gardé. Est esthétique chez Kant une relation à la représentation où rien, absolument rien, nichts, n'est désigné, bezeichnet, dans l'objet. Mais où le sujet se sent lui-même, sich selbst fühlt, tel qu'il est affecté par la représentation. Avoir un rapport esthétique au pays, alors, c'est saisir le rapport de la représentation qu'on s'en fait, au sentiment, Empfindung, sensation de sentiment, hein, c'est encore un terme difficile à traduire, au sentiment qu'il vous inspire. Cela ne signifie pas refuser de connaître, mais cela signifie ne pas se précipiter vers le pays avec des instruments qui lui sont étrangers ou vers le paysage. Cela suppose que la contemplation active supplante, dans le cas du rapport esthétique, la connaissance. L'important, pourrait-on dire en montant un peu sur les épaules de Kant, c'est de laisser résonner le paysage en soi, en voyant, ou plutôt en sentant, comme on sent, comme on voit. Ce que Kant fait, c'est une théorie de l'empfindung. On pourrait suivre l'analytique du beau et l'analytique du sublime pour montrer comment l'expérience esthétique du beau, puis l'expérience esthétique et supra-esthétique du sublime, au-delà des jugements qui les entérinent, se constitue à partir toujours de réduction, de soustraction, d'exclusion. Le concept kantien de désintérêt, qui a été si mal compris, de désintrication, joue un rôle central dans l'analytique du beau, dans l'analytique du sublime, pour se trouver ensuite repris et transformé dans la déduction et dans la dialectique. Il y a une difficulté extrême, c'est que la plupart des gens, on verra avec Sartre tout à l'heure, s'arrêtent à l'analytique. Ils ne comprennent pas que le sens de l'analytique, c'est de préparer la dialectique. De même, ils ne s'interrogent pas du tout sur le fait qu'il n'y a pas de dialectique du sublime. Et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir que de dialectique que du beau? Ces questions-là sont extrêmement importantes, c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre Kant que si on fait très attention à la suite des arguments et à leur enchaînement. Hein. Il faut jamais ne s'appuyer que sur l'analytique pour parler de la théorie du beau chez Kant. Moi, je me suis amusée à distinguer trois théories du beau chez Kant selon l'emplacement. Une de l'analytique du beau, une de l'analytique du sublime et une troisième de la déduction et dans la dialectique. Dans l'analytique du beau, le beau se constitue à partir d'une série d'exclusions dans un jugement qui n'est jamais déterminant. Il ne s'agit pas de logique. Il ne s'agit pas de déterminer un objet à partir d'un concept préexistant, mais seulement réfléchissant. Nous nous mouvons dans l'horizon d'une idée. Alors, il y a ces quatre moments que je vais résumer à cette lumière de la réduction. Le plaisir doit être sans intérêt pour l'existence de l'objet. Cela veut dire que le sujet esthétique doit exclure l'intérêt sensible de l'agréable et l'intérêt rationnel du respectable, au profit de ce qu'on pourrait appeler, mais que Kant n'appelle pas, stricto sensu, mais je suis pour le dire de façon plus claire, un intérêt proprement esthétique. Il y a un intérêt proprement esthétique. On ne peut pas dire que ce soit sans intérêt. C'est pas possible. Mais c'est sans intérêt au sens banal, où ce me serait agréable, ou cela forcerait mon respect. C'est ça qui est exclu. Deuxièmement, l'universalité qu'on attribue au beau doit être sans concept. Cela veut dire que le beau repose sur un autre principe que l'utile et que le bon. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compatible dans un objet avec l'utile et le bon. Une fourchette peut être belle en même temps qu'utile, mais le principe du beau est différent de celui de l'utile. Donc elle doit être sans concept. Troisièmement, la finalité du beau doit être dépourvue de fin. Finalité sans fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne doit pas avoir de fin explicite. Quatrièmement, il faut reconnaître que le beau répond à une nécessité d'un autre type que la nécessité apodictique, que la nécessité absolue, et que cette nécessité esthétique est une nécessité conditionnée par l'objet. Donc, l'esthétique chez Kant est donc fondée en un premier temps sur le ohne, le sans. Satisfaction sans intérêt, universalité sans concept, finalité sans fin, nécessité sans absolu, unbedingt. Quand on arrive au sublime, la forme et le concept disparaissent, la causalité naturelle perd son poids et la nécessité déborde la seule sphère esthétique. Voilà qui conduit Kant à une théorie de l'acte esthétique avant la lettre. Alors, il y a un très très beau passage dans la remarque générale sur les jugements esthétiques réfléchissants, dans lequel Kant dit ceci. Lorsqu'on dit sublime, la vue du moi du ciel étoilé, il ne faut pas mettre au principe du jugement les concepts des mondes habités par des êtres raisonnables, et considérer les points brillants qui remplissent l'espace au-dessus de nous comme leur soleil mu selon les orbites qui leur sont parfaitement appropriées, non. Il faut le regarder, le ciel, simplement comme on le voit, comme une vaste voûte qui englobe tout. Le regard esthétique n'est pas le regard scientifique. Là, mais là encore, ils peuvent être compatibles. Hein. Le regard esthétique repose sur un autre principe que le regard scientifique. L'originalité de la thèse kantienne réside dans l'affirmation que la valeur esthétique ne s'ajoute pas, comme disait Aristote, qui soutenait que la beauté s'ajoute à l'acte comme à la jeunesse sa fleur. Non, la valeur esthétique, le beau, le sublime, naît grâce à un travail d'ascèse et d'abstraction qui consiste à refuser toute projection de ce que je sais ou de ce que je veux sur le spectacle que je contemple et auquel je me soumets volontairement. La ligne de clivage ne passe pas entre la nature et l'art. Ça, c'est une chose très importante. Hein, comme, elle, non, de même, elle ne passera pas entre paysage naturel et paysage artificiel. Hein. Bon, ce sera d'autres choses. Il s'agit de comprendre que la ligne de clivage passe entre ce qui ne peut se réfléchir que sous un angle esthétique et ce qui peut se réfléchir sous bien d'autres angles. C'est ça la difficulté. Il s'agit d'éviter l'interférence de toute considération utilitaire, religieuse ou scientifique. En ce sens, Kant anticipe le refus de tout contrôle exercé par la raison et de toute préoccupation esthétique et morale préconisé par le manifeste du surréalisme. Kant, ancêtre des surréalistes. Disons donc, ça va devenir plus facile, là, c'était le moment un peu délicat, mais bon, je veux vraiment vous faire comprendre cette esthétique du sang, du haineux. Disons donc que le paysage requiert pour apparaître un acte esthétique, c'est-à-dire un acte par lequel je m'expose moi-même au paysage pour sentir ses effets sur moi, les approfondir et les retravailler. Voulant mettre en évidence l'expérience proprement esthétique de celui qui transforme le pays, la nature ou l'environnement en paysage, j'ai proposé en 1997, dans mon exposition, mon fameux exposition là sur le paysage et la question du sublime dont Laurent a parlé, et j'ai proposé baptiser paysageur celui grâce auquel le paysage arrive, pour le distinguer du paysagiste, que celui-ci soit peintre ou jardinier. D'ailleurs, finalement, certains peintres m'ont repris cette idée, et se sont prétendus non plus paysagistes, mais paysageurs, hein, et en particulier Christian Garner. Le paysageur ne prétend d'abord ni admirer la nature pour éprouver les preuves de l'existence de Dieu, comme le théologien, ni y poursuivre des fins déterminées, comme les agriculteurs, les militaires, les architectes, les chasseurs, les pêcheurs, ni en étudier des phénomènes isolés, ou même plus globaux, comme le savant. Le paysageur est un artiste. Mais c'est un artiste ignoré, qui passe son temps à cadrer, sélectionner, recomposer, mémoriser, réinventer. De la sorte, il fournit l'exemple d'une activité esthétique pure, non adossée à des concepts, et désintéressée, au sens d'indifférente à ce qui, dans l'existence de son objet, pourrait servir ses fins. Il développe une créativité proprement esthétique. Alors, je tiens beaucoup à distinguer la créativité esthétique de la créativité artistique. Hein. L'acte esthétique et l'acte artistique se distinguent, même s'ils peuvent se conjuguer dans certains cas. Le paysageur emprunte certes des schèmes aux beaux-arts pour fabriquer ses propres œuvres à l'intérieur de son atelier d'imagerie mentale. C'est l'artialisation telle que la développe Alain Roger. Hein, vous connaissez tous l'artialisation, hein, c'est cette histoire de schème sociologique, c'est une extension de Kant, c'est-à-dire il n'y aurait pas seulement des chaînes qui permettent de passer du concept au sensible, mais il y aurait chez les artistes des chaînes socio-transcendantaux qui permettraient de voir le monde à travers eux et le construire. Alors ça, c'est l'artialisation. Et la nature que le paysageur a déjà réussi à paysager l'assiste également dans ses compositions. C'est-à-dire que nous ne disposons pas seulement de schèmes socioculturels, mais la nature nous propose d'abord ces schèmes. Comme, je sais pas, par exemple, chez Proust, la vision des épines dans la nature qui sert de schème à la vision les suivantes. Mais moins mécanique est l'application des grilles, plus rigoureux est le refus des projections trop immédiates et individuellement subjectives, plus profonde est l'invention du paysageur. Alors, venons-en à la réduction optique. Réduction de la polysensorialité à une monosensorialité, celle de la vision et des appareils de la vision. On pourrait croire que le paysage est ce qui m'arrive, ce qui arrive à tout mon corps en mouvement et surprend grâce à lui l'ensemble de mes facultés. C'est un véritable matin de la sensation, pour reprendre une expression de Claude Reichler. C'est bien ce que dit Kant lorsqu'il crédite le sujet esthétique d'une capacité de se sentir lui-même à l'occasion de la connaissance de l'objet. Reste qu'on est frappé du privilège historiquement donné à l'optique par rapport à l'aptique, pour reprendre l'expression d'Aloïs Riegel, n'est-ce pas, de ce qui est vu à travers l'œil et ce qui est vu et ce qui est senti par les différents sens. L'influence de la peinture se ferait-elle trop prégnante et le paysage pictural, le paysage en image, PA, empêcherait-il l'accès à un paysage voué à exalter les différents sens? On trouve notamment chez Shenstone une critique acerbe de la primauté donnée à la vision. C'était dans les Unconnected Thoughts on Gardening. Il explique comment la raison pour laquelle il faut répudier des allées qui sont rectilinéaires, c'est que il ne faut pas que l'œil anticipe ce que le pied doit seul découvrir. Hein. L'œil doit se soumettre à la dynamique du marcheur. La vision doit se déployer dans un paysage concret et s'approprier à lui par une série de tâtonnements. De là, une esthétique de la surprise continuée qui permet de jouir de la diversité des données sensorielles et de la métamorphose des éléments selon les heures et les saisons. Maintenant, il faut bien comprendre que la marche est un dispositif du paysage naturel qui peut renforcer un autre dispositif optique et faire du sujet entier un appareil optique en exercice. En témoigne un texte peu connu de Giono, qui était paru comme chronique dans le Dauphiné libéré en 1967, et que donc je me permets de vous citer parce que je pense que ça vous plaira. La marche à pied, ou plutôt les procédés de la marche à pied, c'est de se transformer en loupe ou en télescope. Le plus magique instrument de connaissance, c'est moi-même. Quand je veux connaître, c'est de moi-même que je me sers, c'est moi-même que j'applique mètre après mètre sur un morceau du monde comme une grosse loupe. Je ne regarde pas le reflet de l'image, l'image est en moi. Le grossissement, c'est au milieu de mes nerfs, de mes muscles, de mes artères et de mes veines qu'il se développe. Donc la marche permet de sentir l'image se former en moi-même. La primauté accordée à la vue tiendrait-elle alors à une possible primauté de la mémoire visuelle? La réduction à la vue n'a rien d'évident, ni dans le paysage naturel, n'a rien d'évident dans le paysage naturel, alors qu'elle va de soi dans le paysage artistique. Il faut donc méditer la leçon de la peinture. Rien de plus impressionnant à cet égard que l'effort de Wölfflin pour constituer une science des théories de la vision qui permettent de comprendre les modifications de l'appareil d'expression lors du passage de l'âge classique à l'âge baroque. Et c'est un parfait exemple de la pensée en amont. C'est un historien de l'art qui se transforme finalement en philosophe. Ces cinq couples de catégories ne sont pas déductibles d'un principe unique à la différence des catégories anciennes, mais on comprend grâce à elles que chaque changement peut être interprété soit comme une réduction du domaine de l'art, soit comme un affranchissement, une libération à l'égard des contraintes qui apparaissent soudain comme radicalement contingentes. Alors je tiens beaucoup à ce terme de libération, je me suis récemment aperçu que j'étais moi-même l'enfant de la libération, j'avais été conçue par mes parents au moment de la libération de Paris, et que certainement ce que j'ai cherché du côté du sublime, c'est une libération. Mes parents, alors que j'avais une sœur aînée, m'ont donné plus de liberté qu'à ma sœur, et manifestement j'incarnais à leurs yeux une ère nouvelle. C'est ça que quand on sait opérer une réduction de façon considérable, eh bien ça peut permettre cette libération qui peut en être l'effet. Alors, je vais pas insister sur Wölfling que vous connaissez tous, mais c'est ce que je dis est particulièrement vrai du passage du linéaire au pictural, du trait à la couleur, parce que le style linéaire isole les objets, valorise les contours, mais leur donne une réalité stable et tangible. Hein, c'est l'histoire des philosophes. Est-ce que seul n'est vrai que ce qui prête à un contact, à un toucher? Bon. Le style pictural, au contraire, libère les formes de leur isolement et limite les contours. On n'a plus d'appui sur le toucher. Il s'attache aux effets optiques, rend moins l'apparence que l'apparition et vise une réalité qui est intangible et mobile. Ajoutons que le style linéaire tend davantage à imager et que le style pictural, lui, tend davantage à imaginer, en se livrant même à une véritable débauche d'imagination. Mais cela est vrai aussi pour le passage de la planéité à la profondeur, de la forme fermée à la forme ouverte, de l'unité multiple à l'unité indivise, ou encore de la clarté absolue à la clarté relative, notamment celle de la nuit. Donc, l'ambition de Wölfling, c'est de remonter d'œuvres artistiques données à leurs conditions formelles de vision et de création. À la différence des concepts kantiens, ces conditions formelles ne sont pas données une fois pour toutes, et le transcendantal a une histoire. La vision évolue à partir subjecti. Deuxième réduction optique. De même que les paysages linéaires du classicisme et les paysages imaginaires du baroque constituent des lunettes picturales de différents types, permettant de voir la nature et d'y reconnaître des paysages, ou PN, bien d'autres lunettes et d'autres dispositifs sont à notre disposition. Alors je voulais étudier le panorama pour trois raisons. Et tout comme le paysage a d'abord été un terme de peinture, le panorama a d'abord désigné un mixte d'architecture et de peinture. C'est au fond bien curieux, enfin je crois qu'il faut vraiment en chercher toujours les raisons, que le mot panorama ait été inventé pour la machine et non pour la chose, c'est-à-dire pour le PA et non pour le PN. Deuxième raison, on est conduit à dédoubler le panorama comme on dédouble le paysage pour opposer un nouveau panorama naturel à un panorama artistique plus ancien. Enfin, on confond souvent paysage et panorama. En témoigne une anecdote fondatrice qui est celle de l'échec de la première expérience esthétique d'un paysage précisément panoramique, celui de que Pétrarque aurait dû contempler au terme de l'ascension du Mont Ventoux. Et vous vous rappelez qu'il ouvre les confessions de Saint-Augustin et qu'il était irrité contre lui-même d'admirer encore les choses de la terre quand il aurait dû apprendre des philosophes, même des gentils, même des païens, que rien n'est admirable que l'âme et que pour l'âme, lorsqu'elle est grande, rien n'est grand. L'œil intérieur l'emporte sur l'œil extérieur. Le terme paysage est antérieur de plus de trois siècles à celui de panorama. De même que paysage est un néologisme forgé dans le milieu pictural à partir de pays et du suffixe « age » qui désigne un collectif sur le modèle rive-rivage ou encore le résultat d'une action sur le modèle cadre-cadrage. De même, panorama est un néologisme forgé par le peintre de portraits Robert Barker en 1787 à partir des termes grecs pan, qui signifie tout, et orama, ce qui est vu, dérivé de orao, voir, regarder. Oui, Robert Barker était un peintre miniaturiste, et c'est à Édimbourg, au-dessus de Regent Terrace et de Holyrood Castle, qu'il a contemplé un panorama qu'il a voulu ensuite breveter, donc en faisant, d'ailleurs à l'époque simplement de 180 degrés, il l'a fait simplement à Londres en 360 degrés. Mieux, si le paysage a un sens exclusivement pictural dans le dictionnaire de Robert Estienne de 1549, il en vient à désigner un point de vue fixe et cadré à partir d'une situation élevée. L'atteste le Varignon de Fontenelle, que cite Émile Dittré, un paysage dont on aura vu toutes les parties l'une après l'autre n'a pourtant point été vu. Il faut qu'il le soit d'un ciel, d'un lieu assez élevé où tous les objets auparavant dispersés se rassemblent sous un seul coup d'œil. Et nous avions bien travaillé cette question avec Sophie Lefay, qui avait publié un très beau colloque sur le panorama. Mais en passant de PN à PA, nous ne changeons pas seulement de lunettes. Nous quittons le réel, supposé fondateur et commun, pour découvrir la vocation panoramique de notre vision, en l'absence même de panorama naturel. L'imitation se fera dès lors à fond renversé, au lieu que l'art imite la nature imitera l'art, selon la célèbre formule d'Oscar Wilde. Que le panorama naturel puisse n'être plus vécu que comme l'imitation du panorama artificiel conçu par l'homme, tel est le danger de ce nouveau dispositif. Sans doute, le panorama artificiel peut apparaître comme déréalisant et appauvrissant dans la mesure où il se substitue au vrai panorama. Que se passe-t-il donc dans le panorama naturel ? Il suppose une ascension, c'est-à-dire un investissement de notre être physique. Et le terme qu'il se fixe, deuxièmement, est paradoxal. Comment voir tout autour de nous en un même temps? Pour y réussir, il faudrait exécuter un mouvement de toupie et pivoter rapidement sur nous-mêmes, à l'instar des enfants ou des derviches. Edgar Poe, qui avait cité Claude Leroy dans le texte Panorama, se demandait déjà dans Eureka comment saisir le panorama dans son unité indivise. Je me propose d'embrasser l'univers dans un seul coup d'œil, de telle sorte que l'esprit puisse en recevoir et en percevoir une impression condensée comme d'un seul individu. Celui qui, du sommet de l'Etna, promène ses yeux autour de lui, est principalement affecté par l'étendue et par la diversité du tableau. Ce ne serait donc qu'en pirouettant sur son talon qu'il pourrait se flatter de saisir le panorama dans sa sublime unité. Et alors, c'est intéressant, c'est que ce que finalement on n'arrive pas à faire naturellement, on peut arriver à le faire artificiellement. Je pense par exemple au travail de Marcus Reitz, qu'on peut voir en ce moment dans la très belle exposition sur photographie et sculpture qui a lieu au musée Rodin. On voit que Marcus Reitz se photographie sous les différents angles et installe ses photographies dans une salle multigonale, une salle polygonale qui permet donc de le voir à la fois, non seulement en avant, en arrière, à gauche et à droite, mais dans les positions intermédiaires. Mais évidemment, dans ce cas-là, nous quittons à nouveau le naturel pour l'artificiel, ou plutôt nous quittons la technique de la nature pour une technique plus sophistiquée qui, elle-même, est inspirée par la nature. Enfin, troisièmement, bon, j'ai sauté ça, mais je voulais montrer que la vision panoramique était une vision qu'on avait la nuit, dans la mesure où la nuit, nous quittons une vision qui est frontale pour avoir une vision latérale. Et ça m'intéressait beaucoup de voir le rôle de cette vision latérale dans les différentes expériences panoramiques de celle de Victor Hugo et de Jean Grenier. J'en viens à ma troisième réduction, qui est la réduction de la vision extérieure à la vision intérieure. Qu'est-ce que voir un paysage? Est-ce en former une image photographique dans notre appareil oculaire, ou bien est-ce le sentir? J'en reviens au texte de Giono, déjà cité, qui insiste sur la transformation de notre corps entier en dispositif optique. Alors, est-ce que l'essentiel, c'est de refléter un paysage dans nos pupilles, ou bien de le laisser vibrer dans notre fort intérieur? Vous savez qu'en Chine, le meilleur compliment qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de dire qu'il a un paysage dans son cœur. Non pas dans ses yeux, mais dans son cœur. Deuxièmement, entre imager et imaginer, est-ce qu'il y a ou non solution de continuité? Imager, c'est enregistrer le plus fidèlement possible des formes et des couleurs. Imaginer, c'est sympathiser avec une profonde dynamique. Alors, je vous cite Victor Hugo. Je marchais dans la montagne sans trop savoir où j'étais. Peu à peu, le paysage extérieur que je regardais avait développé en moi cet autre paysage intérieur que nous nommons la rêverie. J'avais l'œil tourné et ouvert au-dedans de moi et je ne voyais plus la nature, je voyais mon esprit. Alors, à travers pareille intraversion, ne perdons-nous pas le paysage extérieur? Que gagne-t-on à travers cette réduction paysagère? Il faut savoir que d'Origène à Ignace de Loyola, la théologie chrétienne a développé une extraordinaire théorie des sens spirituels ou sens intérieurs. Les sens spirituels sont les organes grâce auxquels l'âme se détourne du monde et s'applique par une véritable catharsis à sentir et à expérimenter la présence du Seigneur à travers les cinq sens. La question de la spiritualisation des sens est aussi celle de la spiritualisation de l'amour. Qu'aimais-je en aimant Dieu, se demande saint Augustin. Quel est l'aimé de l'aimé? Quel est le vu du vu? Ma vue physique, mon amour physique montrent leur insuffisance à attendre leur objet. Et néanmoins, on ne saurait les négliger. Il y a cette formule extraordinaire de saint Augustin disant « Pourtant, quand j'aime Dieu, j'aime une clarté, une voix, un parfum, une nourriture, un enlacement. » Je ne replie pas seulement sur l'intérieur. En lisant ce texte, on se demande ce qu'aurait été la peinture sans les développements de la psychologie mystique qui a permis de conquérir un espace intérieur et de penser l'existence d'un objet évanescent à la limite de l'intérieur et de l'extérieur, du sensible et de l'insensible. Vous dites, c'est un fait, ce sont les yeux qui voient. Qu'en savez-vous? C'est ainsi que nous apostrophe Jacques Lucéran, devenu aveugle à l'âge de 8 ans. Bien que non voyant aux yeux de la science, il croit en effet voir encore, c'est-à-dire recevoir, dit-il, les êtres et les choses immédiatement, à distance juste, donc pas métaphoriquement, immédiatement. Mais si l'opération de la vision ne se produit pas par l'intermédiaire des yeux, que reçoit-il et où reçoit-il? Il reçoit, dit-il, sur un écran interne, tantôt situé autour des yeux, tantôt plus bas, dans une région proche de la gorge, de la poitrine et du cœur. Et ce qu'il reçoit, ce sont des formes et des couleurs qui proviennent d'une lumière intérieure et trahissent l'être moral plus encore que l'être physique d'autrui. c'est intéressant pour la question du portrait, parce que d'où ça part. Bon. Et là est toute la difficulté. Comment voir ce qu'on voit, sentir ce qu'on sent? Non seulement nous n'arrivons pas à coïncider avec nous-mêmes, mais autrui ne se réduit pas pour nous à une apparence visuelle extérieure. Ou plus exactement, il y a toutes sortes d'impressions qui remanient cette apparence. Ainsi, une personne en colère, toujours à suivre Jacques Culcérant, éclatera en fragments épars. Une personne qui suit le cours de ses pensées portera un cône de lumière comme un chapeau sur la tête. Une personne attentive se rapprochera. Et Jacques Culcérant avait rencontré le peintre Hélion, qui a fait son portrait. Ce peintre, dit-il, confirmait tous mes soupçons et toutes mes certitudes. Il était le clairvoyant qui voyait comme l'aveugle. Il n'avait aucun préjugé sur la lumière extérieure. Il savait qu'elle n'est pas extérieure. Ces traits de mon visage que sa main traçait minutieusement pour lui n'étaient que des signes, les signes d'un second visage qu'il apercevait, mais qu'il fallait traduire par des lignes et des couleurs, parce que c'est notre langue commune. Alors, de quoi s'agit-il là-dedans, n'est-ce pas, ce second visage qui serait à l'intérieur de l'autre visage, celui que le peintre devrait surprendre, s'accorde avec, va de pair avec la saisie d'une lumière qui n'est pas lumen, la lumière extérieure, la lumen luminaire, mais une lux, une capacité de voir dans laquelle on entre, on n'entre pas. Alors j'avais préparé un petit passage pour résumer la théorie de Sartre sur l'image qui me semble une extrême modernité, et j'avais essayé de montrer que Sartre était au fond, s'en était arrêté à l'analytique du beau, et ça donnait un sens très savoureux et très intéressant à sa notion de l'image, mais finalement un sens extrêmement pauvre, c'est-à-dire qu'on ne comprenait plus ce que c'était qu'imaginer au sens propre chez Sartre. Et donc j'en avais conclu à l'idée qu'il y avait deux sens de l'image, une image qui imageait et une autre qui imaginait, et que malheureusement, comme on les confond très souvent, quand on croit que le paysage est image, on ne voit pas que l'image peut être, comme disent les Italiens, imaginifique, c'est-à-dire productrice d'image. Alors pour conclure, je dirais que la réduction est une étape nécessaire au sein d'un processus global. Elle se dédouble en élection de traits sensibles ou de signifiants privilégiés, toujours au détriment des autres. Et deuxièmement, en délocalisation, c'est ce que Virginia Woolf a très bien montré. Enfin, on sort les éléments signifiants des séries, hein, on les met ailleurs, en délocalisation et en intériorisation. Alors, j'ai étudié ici des dispositifs visuels déterminés, mais évidemment, les analyses de type voisin pourraient être faites et sont faites à partir d'autres sens. Seule cette double réduction permet, en un troisième temps, la mise en résonance des différents aspects de l'expérience et la constitution de chambre d'écho. On pourrait user, pour aller plus vite, d'une autre métaphore et parler ici d'un premier temps de dessiccation, enfin on essaye d'extraire les signifiants de leur contexte, et dans un deuxième temps d'hydratation, permettant à l'infime de prendre du volume et de gagner une visibilité inédite. Ma deuxième conclusion porterait sur la compatibilité nécessaire du regard. On pourrait dire qu'avec la prolifération des nouvelles technologies, c'est de plus en plus au regard et aux prothèses qu'il utilise de faire montre de courage et de combativité. C'est à lui d'authentifier, de décrypter les images et d'en libérer l'aspect proprement déchirant. Et peut-être c'est ça qui est important. Enfin, je reprends ce terme de déchirant à Georges Didier Huberman dans un très beau texte sur les images, s'appelle l'image malgré tout. Disons que le paysage ne cesse de nous apprendre à lui comme à nous-mêmes. En s'imageant et en nous imageant, grâce à toute une série de techniques qui lui permettent de se réfléchir lui-même tout en manifestant son inventivité. Finalement, le paysage est le reflet dans lequel nous contemplons une nature, un environnement, un pays que nous n'arriverions pas à voir autrement. C'est toujours l'histoire du bouclier de Percé et du miroir formateur de la fonction du jeu. Il faut savoir se laisser guider par l'image. Hein, le courage de Percé, c'est de n'être fasciné ni par Méduse, ni par son reflet, mais de se servir du reflet pour empêcher que Méduse ne le captive. Un être humain digne de ce nom est celui qui sait se débrouiller avec les miroirs, avec les images, avec les paysages prothèses, avec les paysages seconds. Il sait leur double valeur, valeur d'arrêt, comme chez Sartre ou dans la Nietzsche du Beau, mais valeur aussi de relance, de réorientation du désir. Au fond, ce qu'il faut méditer, c'est que trop de réel englue, mais que trop d'imaginaire de son côté conduit au délire, et enfin, que trop de symboles tuent. Il faut donc se débrouiller avec ça. Merci de votre attention.